Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour un nouvel épisode de Réseau à la Une. Pour rappel, ce podcast décrypte le diagnostic des enseignes en franchise, précédemment analysé dans notre mensuel diffusé en kiosque. Et je suis Valentine Puot, journaliste à l'officiel de la franchise et avec moi, comme toujours, Sylvain Bartholomeu, dirigeant et associé du cabinet Franchise Management pour décrypter ces dossiers. Bonjour Sylvain.
Bonjour Valentine.
Merci d'être avec nous.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Le principe du podcast, pour ceux qui nous rejoignent ou qui nous écoutent pour la première fois, c'est s'entourer chaque mois du cabinet Franchise Management pour passer à la loupe le DIP d'un réseau, dans notre magazine déjà, après qu'une enseigne nous ait confié l'ensemble de ses documents juridiques, puis d'en débattre dans un podcast. Comment ça se passe ? C'est très simple. Ces documents, le cabinet les analyse, puis nous remet une notation. Sylvain, vous et vos équipes nous remettez alors un indice de performance de réseau qui permet de mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur et la clarté ou non des infos qui sont adressées aux candidats pour le réseau. À chaque fois, 50 points de contrôle sur la partie juridique qu'on vous détaille juste après. Et pour débuter déjà, nous allons vous présenter Gang of Pizza. Donc c'est une enseigne qui a mis en place un concept de pizza par distributeur automatique. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Arthur Le Gouic, son directeur général. Bonjour Arthur.
Bonjour Valentine.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité.
On échange tout de suite sur votre DIP et la notation qui vous a été accordée au mois de novembre. Alors Sylvain, quelle est la note que le cabinet a accordée au réseau et pourquoi ?
Alors on a une évaluation moyenne donc, sur la documentation juridique, c'est-à-dire le DIP et le contrat de 60%, avec une évaluation du DIP à 52% et une évaluation du contrat à 68%. Donc on rappelle qu'on est sur un réseau qui est en plein développement puis en phase de structuration. Donc, l'évaluation est plutôt correcte et cohérente par rapport au stade de développement du réseau. Mais on a identifié des points d'amélioration dont on va pouvoir parler et qui serviront à la marque à mieux structurer sa documentation juridique.
Alors, dans votre analyse, Sylvain, vous mentionnez déjà plusieurs atouts. Un réseau accessible à tous les profils et pas nécessairement issu du secteur de la pizza. Un développement rapide vers la franchise, mais aussi une communication décalée. Mais à l'inverse, un état général de marché que vous avez jugé plutôt lacunaire et des clauses pas forcément bien expliquées, notamment sur le renouvellement des contrats ou la possibilité de l'arrêter. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, à ce moment-là, rendre le contrat plus lisible sur ces points-là ?
Oui, alors en fait, il y a deux points. Il y a un premier point sur le DIP, sur l'information précontractuelle, et puis un deuxième point sur le contrat et notamment quelques clauses qui manquent de clarté. Si on s'attarde au DIP, comme vous l'avez bien dit, Valentine, on a un concept avec une communication décalée et puis on a un concept qui est quand même, somme toute, très original. Et c'est vrai que quand on voit le DIP, la forme un peu très juridique et un peu austère, c'est quand même dommage parce qu'il y a plein de choses à faire valoir dans le document d'information précontractuelle qui donnerait de la cohérence en fait dans le parcours candidat. C'est-à-dire d'un côté, on a un concept sympa, avec une volonté de disrupter le marché ou en tout cas de moderniser en termes de com. Et après, on se retrouve sur un DIP qui est un peu la mise en forme d'un contrat fait par un juriste qui, au demeurant, le week-end ne serait pas super sympa. voilà, donc on a quelque chose qui est très, très austère et c'est dommage parce qu'en fait, tous les codes marques, les équipes, le sens, les valeurs du projet peuvent être mis en fait dans le DIP pour le rendre plus logique et plus cohérent et puis aussi faire valoir ce qu'on a comme force dans notre projet. Donc ça, c'est ce qui concerne le DIP. Dans le DIP, il y a un gros point, effectivement, vous l'avez bien souligné, de faiblesse, c'est l'état général du marché qui est quand même très, très réduit. Et ça, c'est un sujet quand même qui mérite d'être mieux travaillé, ne serait-ce que pour que le candidat comprenne bien le marché dans lequel il va entreprendre demain. Donc ça a une utilité, c'est pour ça que la loi Dubin impose de remettre un état général de marché au candidat à la franchise. Et là, en fait, il y a un travail de renforcement à faire sur le document. C'est en l'état actuel pas suffisant. Et effectivement, il y a un autre point sur le contrat qui sont les clauses, en fait, qui manque de clarté. On a un contrat qui est assez classique dans les réseaux en lancement, mais on sait qu'à un moment donné, la réussite d'une relation contractuelle, elle repose sur des droits, des devoirs et des engagements réciproques. Et là, parfois, on a des clauses qui manquent de lisibilité pour un candidat, de jamais oublier qu'un candidat à la franchise n'est pas un entrepreneur encore. Donc, ce n'est pas forcément évident pour lui ce que nous, on veut écrire. Et le deuxième point, c'est sur les clauses liées à la cessation du contrat ou aux ruptures anticipées de contrat. Bah, en fait, on a les raisons pour lesquelles le franchiseur pourrait stopper le contrat de manière anticipée, mais il n'y a rien côté franchisé. Idem, dans une logique de réciprocité et d'équilibre, c'est bien qu'on ait les droits et devoirs de chacun et les obligations réciproques. Donc, il y a un sujet de rééquilibrage du contrat qui est quand même, je pense, important.
Alors, Arthur, je vais vous proposer de réagir à ces propos dans un instant, mais déjà pour commencer, comment se porte le réseau depuis la parution?
Oh bah, le réseau se porte très bien aujourd'hui. Donc, comme on l'avait annoncé en novembre, on a bien dépassé les 400 points de vente à la fin d'année. Pour être exact, on a terminé 2023 à 403 points de vente et nous en comptons maintenant un peu plus de 410. Une progression qui est conforme à ce qu'on attendait, avec de nouveaux éléments d'animation qui ont été mis en place cette année, des journées d'échange locales avec les franchisés qui ont bien plu et qui nous ont donné un état assez complet de contentement ou mécontentement des franchisés et des différents points améliorés. Donc,
D'accord.
beaucoup de nouvelles choses et puis une progression aussi forte qu'on l'attendait en fin d'année dernière.
D'accord. Alors, je vous propose du coup de réagir à ces premiers éléments d'analyse du cabinet Franchise Management.
Alors, déjà pour donner une première réponse, donc concernant la forme hein, des documents juridiques, DIP et contrat, la première chose c'est que il y a 6 ans maintenant, quand on a commencé, aucun de nous n'était juriste et donc on s'est appuyé sur un conseil qui nous a proposé un premier DIP et contrat associé, qu'on a fait ensuite relire par un cabinet d'avocats sur Paris qui est spécialisé justement dans la franchise 2 ou 3 ans plus tard quand on a commencé justement à grossir parce qu'on s'est dit qu'il fallait forcément muscler un petit peu le contrat. Et donc on s'est simplement basé sur la version qui a été relue avec une refonte assez importante hein, au moment de la relecture, mais qui a été relue par le cabinet, c'était quoi? C'était 2019 ou 2020 de mémoire. Donc, en effet, le DIP, enfin, DIP, pardon, est plutôt très austère, plutôt très classique. Mais déjà, je n'avais aucune connaissance de ce qu'il pouvait y avoir dans un DIP jusqu'à il y a quelques années. Et surtout, tout ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire le storytelling, l'équipe, etc., le dynamisme ou la mise en place du réseau, tout ça, c'est des choses qui sont indiquées, mais qui sont pas indiquées à l'écrit, qui sont indiquées par le chargé de développement, puisque bien sûr, on a des chargés de développement qui s'occupent d'accompagner les candidats. Et eux sont avec les candidats quasiment au quotidien. Et donc, ça, c'est de l'information qui est transmise, mais qui n'est pas écrite, en effet.
D'accord. Alors Sylvain, vous avez aussi souligné le fait que le fonctionnement du réseau était plus apparenté à une licence de marque ou à une concession plutôt qu'une franchise. Pourquoi?
Oui, alors on a été un peu joueur là-dessus sur ce commentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on lit le contrat de franchise et qu'on lit la clause sur le savoir-faire, c'est une clause qui est assez rudimentaire. Donc moi, je pars et je suppose qu'il y a un vrai savoir-faire au sein de l'enseigne pour avoir ouvert plusieurs centaines d'unités. Il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut qu'il y ait un vrai savoir-faire. Mais c'est vrai que quand on lit le contrat, on voit que la clause sur le savoir-faire est quand même très réduite. Et puis d'autre part, on est sur des concepts qui, d'a priori, vu de l'extérieur, peuvent paraître assez simples, alors qu'ils ne le sont pas. Donc je pense que pareil, c'est un sujet de cohérence. Quand on a un vrai savoir-faire, bah, il faut aussi l'expliquer sur le plan contractuel, le mettre en avant dans son document d'information précontractuel, et puis afficher qu'on a un savoir-faire secret, substantiel, identifié, avec différents éléments qui composent le dit savoir-faire. Donc c'est vrai que sur le contrat, je pense qu'on gagnerait à mieux l'expliquer. Tout à l'heure, Arthur soulignait que les équipes de développement, en fait, expliquaient les choses, mais on sait très bien que les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est bien de formaliser, puis ça force aussi ces équipes commerciales à respecter un cadre. Et encore une fois, voilà, sur le contrat, quand on a une clause sur le savoir-faire un peu légère, Voilà, normalement, la clause sur le savoir-faire, elle doit faire référence au manuel opératoire qui définit le savoir-faire. Et puis, elle doit aussi expliquer concrètement les conditions d'évolution du savoir-faire, la mise à jour régulière du savoir-faire, le contenu, grande masse, de ce qui compose en fait le concept et le savoir-faire. Voilà. Donc, c'était pour un peu chahuter, on va dire ça comme ça.
Alors justement, Arthur, est-ce que vous souhaitiez réagir sur ce point? Pourquoi est-ce que vous aviez directement choisi la franchise au départ, à ce moment-là, pour comparer justement les multiples formes qu'il existe de contrats?
La question n'est pas évidente, enfin la réponse n'est pas évidente à trouver dans le sens où déjà j'étais pas là au moment de la création. C'est pas moi qui l'ai créé. Je pense que le président du groupe ainsi que l'associé principal du début qui était un ancien pizzaïolo et client d'Adyal qui avait déjà des distributeurs automatiques de pizza se sont dit franchise parce qu'ils ne connaissaient pas forcément les différences entre franchise, licence ou concession. Non, dans la réalité, l'histoire telle qu'elle s'est passée, c'est que avant la création de Pivenco, de la société qui détient donc la marque Gang of Pizza, il y avait eu une volonté de la part d'un certain nombre de clients de la société Adyal, donc qui exploite des distributeurs automatiques de pizza, de se réunir pour afficher une communication commune sur un concept assez proche autour d'une association de pizzaïolos. Ça, c'est une idée qui a perduré dans les esprits de beaucoup d'exploitants, de distributeurs pendant un bon moment. Un bon moment, est-ce que c'est 18 mois, est-ce que c'est 12 mois, est-ce que c'est 2 ans? Je ne sais pas exactement, mais pendant plus d'un an, ils se sont dit, on va faire une association, on va faire une association. La difficulté qui s'est rapidement posée, c'est que ben, c'est le problème de l'association, en tout cas tel que ça avait été envisagé à l'époque. C'est qu'aucun consensus sur rien n'avait été trouvé, ne serait-ce que le nom que les pizzaïolos voulaient se donner dans cette association n'a jamais été unanime. Et donc, à force que ça n'avance pas et que ça n'aboutisse pas, et ben Adyal, en l'occurrence le groupe qui détient Adyal, a dit, bon ben voilà, nous on va faire une franchise et puis libre à chacun d'y adhérer ou pas. Mais on voit que l'association, ça ne va pas. Pourtant, on aurait bien aimé être partie prenante dans cette association, mais elle ne prend pas. Donc, on crée une franchise. Et puis, ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoignent. Et ceux qui ne veulent pas nous rejoindre, eh ben, ce n'est pas grave. On continue, on s'entend, il n'y a pas de problème. On continue de bien s'entendre. Et on continue chacun de notre côté.
D'accord.
Donc, c'est comme ça qu'est née la franchise. Maintenant, je comprends bien pourquoi licence de marque ou concession ont été indiquées par Sylvain. C'est parce que, en effet, le contrat ne montre pas grand-chose et je me rends compte que on peut en afficher plus sur le contrat sans forcément dévoiler nos secrets. La réalité, c'est qu'une fois le contrat signé, il y a bien entendu des cahiers de recettes, des manuels opératoires, des fiches techniques, etc., etc., qui sont délivrés donc, et bien sûr Mercurial, qui sont délivrés donc aux nouveaux franchisés. Mais tous ces documents-là, on s'était dit que probablement à tort, du coup, qu'il fallait pas que ça apparaisse sur le contrat, que ça pourrait apparaître ensuite, pour éviter justement de divulguer notre savoir-faire. La
D'accord.
réalité, c'est en effet, hein, on peut tout à fait écrire qu'on a tous ces documents-là qui sont formalisés sans les diffuser pour autant.
Très bien. Eh bien, tout d'abord, merci déjà pour cet échange, messieurs. Ce podcast touche à sa fin, mais d'abord, messieurs, le mot de la fin. Monsieur Le Guic, quelles sont vos perspectives pour l'année 2024 sur le marché de la pizza avec votre nouvelle méthode de distribution, justement, par distributeur automatique par rapport à la concurrence, par rapport à vos franchisés? Voilà, un petit mot pour comprendre vers quoi se dirige le réseau aujourd'hui.
Alors, cette question est très vaste, hein. Premièrement, au niveau développement, donc on vient de vivre une année en demi-teinte, l'année 2023, parce qu'on a fait 120 nouvelles ouvertures en 2023, ce qui est bien en deçà de nos objectifs, ce qui est équivalent à 2022. Et on avait envisagé, estimé qu'on s'approcherait des 170 ouvertures en 2023. La réalité, c'est que, en fait, dans le monde de la distribution automatique, ça a été une année assez difficile. En même temps, nous avons également, il y a un an, changé notre organisation justement pour pouvoir mettre en place des chargés de développement accompagnent les candidats et donc qui sont arrivés pour la plupart il y a un an, qui sont aujourd'hui avec nous, ils sont 5. Et donc, ces chargés de développement n'étaient pas formés il y a un an, donc on a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Donc, il y a plusieurs choses qui expliquent qu'on soit arrivé relativement loin des objectifs qu'on s'était fixés pour 2023, même s'ils étaient très, très ambitieux, on ne les a pas atteints. 2024, alors déjà, on part sur une base bien plus rapide pour cette nouvelle année. On envisage d'ouvrir environ 170-180 nouveaux points de vente cette année, ce qui placerait Gang of Pizza à quelques 580 points de vente d'ici la fin d'année. Et ce qui, alors, bien entendu, nous, on parle en points de vente, hein, c'est plus flatteur pour nous et non pas en chiffre d'affaires, mais ce qui ferait que Gang of Pizza serait la deuxième franchise alimentaire de France à la fin d'année, derrière McDonald's et devant les très gros qu'on connaît, qui sont Burger King, Domino's et étonnamment un très gros aussi en nombre de points de vente, le Kiosk à Pizza.
D'accord.
Donc ça, c'est le développement pour 2024. Et puis après, en termes d'évolution, il y a une évolution à peu près continue, hein, des recettes, des process, des protocoles. On renforce au fur et à mesure des années la sécurité dans le réseau, notamment la sécurité alimentaire. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qui nous permettent d'avancer de façon de plus en plus sereine, malgré la croissance importante.
Voilà, qui devra en tout cas rassurer vos futurs gangsters de la pizza, puisque c'est comme ça que vous appelez vos candidats. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec une autre enseigne d'un autre secteur. En attendant, tous nos podcasts sont à retrouver sur la plateforme CDI Podcast et toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.